Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats, de points de vue. C'est votre 18-20. Une pensée bien sûr amicale à Isabelle Millet, un peu souffrante ce soir, que vous retrouverez bien sûr très vite sur Europe 1. On l'embrasse affectueusement. Dans une poignée de secondes, le journal, et l'on va vous donner un chiffre, celui des naissances en 2020. Quel est l'impact de la pandémie sur les naissances? Réponse à suivre. Dans 20 minutes, on va parler immobilier. Est-ce que vous avez acheté cette année? Est-ce que la pierre est une valeur refuge dans un contexte économique si particulier? Je poserai ces questions à Alain Dinin, le président du groupe immobilier Nexity, qui publie ses chiffres et ses résultats 2020. Vous verrez, il y a des choses vraiment intéressantes et assez étonnantes. 18h30, le débat des grandes voix. On va décortiquer la nouvelle conférence de presse de Jean Castex après les Alpes-Maritimes et Dunkerque. Est-ce que de nouvelles mesures locales vont être annoncées? On va vivre ces annonces ensemble et les analyser en direct donc sur Europe 1. Et puis entre 19h et 20h, c'est votre débat du Club des idées d'Europe Soir. Restez bien avec nous car cela va être un débat très fort avec beaucoup de témoignages, avec des réussites mais également des grandes chutes. Comment se reconvertir quand on a été un immense champion sportif? Mais avant cela, toute l'info avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Thierry.
Bienvenue sur Europe 1, il est 18h.
Êtes-vous sur la liste au début de la conférence de presse du Premier ministre? Dans quelques minutes, il devrait donner les noms des départements où le virus et ses variants sont particulièrement actifs.
Nous verrons si l'exécutif laisse encore un peu de temps au temps ou s'il choisit au contraire d'appliquer dès maintenant la méthode forte dans les régions et les zones concernées.
Une nouvelle étape dans la campagne de vaccination. Les généralistes peuvent vacciner à leur tour. Reportage à Lyon.
Une première victoire pour les restaurateurs en conflit avec leur assureur. La compagnie AXA vient d'être condamnée en appel à indemniser un propriétaire de restaurant.
Qui en veut au maire de Bron? Cet élu de la banlieue de Lyon a été la cible d'insultes et de menaces. Sa voiture a été caillassée.
On ne joue plus. France-Écosse n'aura pas lieu dimanche. Les instances du rugby décident de reporter ce match comptant pour le tournoi des Six Nations. Un nouveau cas positif a été détecté chez les Bleus.
Et puis la Bourse de Paris termine en baisse, moins 0,24% à 5783 points.
La météo, bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Thierry.
Le retour des nuages demain?
Oui, en particulier dans le centre, la région parisienne, le nord-est. Dans toutes ces régions, la journée va commencer effectivement avec un ciel un petit peu plus gris et des averses tout au long de la journée. Les températures vont baisser aussi sur la moitié nord. Mais rassurez-vous, c'est allé. Un ciel gris passager avant le retour d'un très beau printemps. Je vous dis tout à la fin du journal.
Merci Anissa.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nous irons bien sûr du côté de Matignon pour suivre les débuts de la conférence de presse du Premier ministre. Jean Castex s'exprime depuis quelques secondes seulement. Mais cette statistique de l'INSEE balaie les derniers doutes. Le confinement n'a pas engendré de baby-boom, bien au contraire.
Et c'est du jamais vu depuis 1975. Une chute vertigineuse. Le nombre de naissances a baissé de 13% en janvier, Virginie Riva.
Oui, en janvier 2021, on compte 53 900 naissances, soit 8 000 de moins qu'en janvier 2020. Alors janvier, si vous faites le calcul, c'est 9 mois après mars. Ça correspond donc en France au confinement et au moment où le nombre de décès quotidiens dus au Covid ne cessait de croître. C'est donc la forte incertitude liée à la période qui pourrait expliquer cette chute, mais aussi d'autres éléments liés, avance l'INSEE, comme la peur des mères de contaminer leur nouveau-né et la fermeture des centres de procréation médicalement assistée, naissance qui représente 3,5% du nombre total chaque année. Alors, il faut bien avoir en tête que depuis 2015, il y a une baisse tendancielle des naissances de l'ordre de 2,5% entre 2019 et 2020. Mais là, pour retrouver le même décrochage, il faut remonter à septembre et octobre 1975, conséquence du premier choc pétrolier qui marque la fin des 30 glorieuses et du baby-boom. Les naissances chutaient alors de 14%. Sans atteindre les mêmes ampleurs, les naissances avaient également diminué lors des récessions économiques du début des années 80 et 90. L'INSEE va donc scruter avec beaucoup d'attention le prochain bulletin des naissances fin mars et des mois suivants, pour savoir si le phénomène s'installe, voire s'amplifie.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1. L'Europe 1 est globalement confrontée au vieillissement de sa population. C'est particulièrement vrai en Italie, où le taux de natalité est inférieur à 1,3 enfants par femme. Cette question démographique sera d'ailleurs l'un des principaux chantiers du nouveau président du Conseil italien, Mario Draghi.
Le Premier ministre Jean Castex, lui, doit résoudre un autre problème. Comment freiner l'épidémie alors que le virus et ses variants semblent hors de contrôle dans certains départements?
C'est tout l'objet de la conférence de presse qui a lieu en ce moment. Un seul ministre à ses côtés, celui de la Santé. Le chef du gouvernement devrait donner la liste des départements, des zones sous surveillance, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, on parle de territoires où la situation est préoccupante, des zones où les taux d'incidence sont supérieurs à 250 cas pour 100 000 habitants. C'est la situation en Île-de-France, dans le Grand Est ou encore dans les Hauts-de-France. Au total, un peu plus d'une dizaine de zones. D'ici quelques instants, Jean Castex va donc lister ces zones. Il va déjà appeler les autorités locales à dialoguer au cas où la situation se détériorerait encore. A priori, pas de confinement annoncé ce soir, mais l'exécutif privilégie son nouveau mantra, la territorialisation. Il arrive enfin à mettre en place le projet qu'il avait en fait annoncé à l'été, la dentelle, le cas par cas avec le couple maire-préfet. Le gouvernement au pied du mur, mais qui semble encore vouloir gagner du temps. Ce soir, Jean Castex va une nouvelle fois appeler les Français à la responsabilité face à l'épidémie.
Voilà, Jean-Rémy Baudot du service politique, les annonces du Premier ministre, les départements touchés par d'éventuelles nouvelles restrictions. On en parle bien sûr à 18h30 avec les grandes voix d'Europe hein, ce soir.
La campagne de vaccination franchit une nouvelle étape. Depuis ce matin, les médecins généralistes peuvent vacciner les patients de 50 à 64 ans atteints de comorbidité. Jean-Luc Boujon s'est rendu dans un cabinet médical à Lyon Reportage.
Pour le docteur Florence Lapica, c'est la quatrième injection de la journée.
Ça va ?
Oui.
Ouais ?
Pas de problème.
Pas de problème ? C'est supportable ?
Oui, ça va.
Allez, c'est tout bon.
Face à elle, Lionel, 62 ans, un de ses patients habituels qui souffre de diabète et d'hypertension. Il fait donc partie de la population à risque ciblée par ce vaccin AstraZeneca. Un vaccin moins efficace, il faut donc pour le médecin expliquer au maximum avant l'injection.
Est-ce que vous avez des questions ?
C'est sûr.
C'est sûr, il y a, c'est pas un doute, mais simplement une efficacité qui est autour de 60-70%, c'est-à-dire qu'il reste un petit pourcentage quand même de risque de l'attraper encore.
Il avait besoin d'explications et d'être rassuré, et c'est normal. Je crois que les patients ont besoin d'informations et d'informations claires. Effectivement, il faut le dire aux patients, ça ne protège pas à 100%. Et il y a des petits risques quand même d'avoir des courbatures de la fièvre. Donc c'est pareil, il faut prévenir les patients.
Lionel a fini par être convaincu, surtout dans sa situation.
Il y en a beaucoup comme moi qui existent, mais bon, il faut le faire, C'est vrai, je suis malade à risque, C'est du diabète, j'ai fait un AVC.
Donc il ne faut pas rigoler avec, avec le Covid.
Ah bah non, il faut faire attention.
Et il reviendra dans 9 semaines pour la seconde injection. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et la campagne de vaccination qui semble porter ses fruits au Royaume-Uni. Pour la première fois depuis janvier, le gouvernement abaisse son niveau d'alerte d'un cran. Il est désormais à 4 sur une échelle de 5, Christophe.
Oui, et c'est l'une des conséquences de la crise sanitaire en France. De nombreux restaurateurs ont demandé à leur assureur de couvrir leurs pertes Covid. Et pour la première fois, eh bien, AXA est condamné en appel.
La compagnie est condamnée à indemniser un restaurateur marseillais et cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pourrait faire jurisprudence, Clément Le Saffre.
Ah oui, car c'est la première décision sur le fond du dossier. Jusqu'ici, les tribunaux de commerce qui avaient été saisis par des restaurateurs s'étaient uniquement prononcés sur la forme, autrement dit, sur le flou qui entoure l'écriture d'une clause présente dans certains contrats. Clause qui mentionne une indemnisation en cas d'épidémie. AXA argue que cela concerne les épidémies restreintes à un seul établissement type salmonellose. Mais les restaurateurs, eux, s'estiment lésés par cette interprétation. Et donc, pour la première fois, un juge a tranché sur le fond. Sans précision supplémentaire, la mention d'une épidémie vaut pour les pertes liées au Covid-19. Pour Maître Tertian, qui a plaidé le dossier, c'est une victoire pour tous les restaurateurs.
La particularité de la décision qui est rendue aujourd'hui, c'est qu'elle a vocation à faire jurisprudence d'abord dans le ressort de la Cour d'appel où il y a quand même une vingtaine de tribunaux de commerce. Et puis aussi, elle va avoir une portée nationale. Et j'incite tous les assurés de cet assureur à engager le même type de procédure parce qu'il serait temps maintenant qu'il fasse son vrai métier qui est d'indemniser les sinistres de ses assurés.
Et forcément, cette décision est un coup de massue pour les assureurs en tout. Il y aurait 15 000 restaurateurs concernés par cette clause épidémie en France, ce qui ouvre la voie à une indemnisation potentiellement massive. AXA n'a pas souhaité s'exprimer, mais a indiqué dans un communiqué qu'il allait étudier les motivations de la décision de la Cour d'appel.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. L'épargne des Français continue de gonfler. Le livret A et le livret de développement durable vont de record en record.
Ces deux livrets ont engrangé plus de 7 milliards d'euros en janvier, soit une hausse de 58% par rapport à janvier 2020. Selon la Caisse des dépôts, les Français privilégient l'épargne liquide pour se protéger des imprévus. Et selon la Banque de France, Christophe, le surplus d'épargne devrait atteindre 200 milliards d'euros à la fin de l'année.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Le journal de Christophe Lamar continue 18h10 sur Europe 1. À Bron, dans la banlieue de Lyon, le maire a été la cible de menaces et d'insultes. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit.
Et en janvier dernier, Jérémy Bréau avait déjà été visé par des menaces. Des tags appelant à sa décapitation avaient été retrouvés sur une palissade de chantier. Cette fois, c'est après une réunion que les choses ont dégénéré. Insultes, menaces et jets de projectiles sur sa voiture. Jérémy Bréau annonce qu'il va porter plainte.
On nous a prévenu qu'il y avait une voiture qui était en train de se faire caillasser dans le parking juste à côté. On s'est vite douté que certainement que ça devait être la nôtre, celle de la ville. Et puis donc on s'est rendu sur place, effectivement on a vu que la voiture de la ville était défoncée. Il y avait un groupe d'individus d'une dizaine de personnes, une grosse vingtaine d'années à peu près. Et donc là, il y a eu un déferlement de menaces, à la fois de menaces physiques, aussi d'insultes, et puis aussi de jets de projectiles. J'ai vu passer au-dessus de nos têtes une canette, on a vu des cailloux, on a vu également aussi des morceaux de bois.
Vous avez eu peur ?
Sur le coup, non, parce que dans le feu de l'action, vous n'avez pas le temps d'avoir peur. Mmh. C'est une fois en revanche quand vous rentrez chez vous et ce matin au réveil, oui, effectivement, ça brassait. Ce ne sont pas des moments qui sont faciles à vivre. Maintenant, voilà, moi, je suis déterminé comme jamais. Ça veut dire que tout ce que l'on met en place depuis bientôt 8-9 mois depuis l'élection, ça fonctionne. Ça veut dire qu'on gêne. On gêne une extrême minorité, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une extrême minorité d'individus.
Vous gênez les trafics ?
Oui, on va dire les choses, c'est ça. Les opérations communes, police municipale, police nationale, qu'on fait régulièrement, on gêne leur business. Et là, le message ce matin, c'est qu'on ne va pas se laisser intimider, on va pas se laisser. On refuse d'être soumis et puis on va continuer à reconquérir certains territoires perdus.
Alors, on refuse d'être soumis, le maire, les Républicains de Bron, Jéry Muréo, avec Jean-Luc Boujon. Et puis dans l'Essonne, deux nouvelles bagarres ont éclaté cet après-midi.
La première à Savigny-sur-Orge, les policiers sont intervenus et ont empêché les protagonistes, une vingtaine de personnes, d'en découdre. Quelques armes blanches ont été saisies. Et puis à Évry, en revanche, il y a eu des coups échangés. Une trentaine de personnes étaient impliquées. L'une d'elles a été blessée à coups de couteau, mais ses jours ne sont pas en danger.
On part aux États-Unis à présent. Donald Trump a fourni ses déclarations de revenus au procureur de Manhattan chargé d'enquêter sur une possible fraude fiscale. L'ancien président américain est soupçonné d'avoir fraudé le fisc avant son élection à la Maison-Blanche.
Et puis toute autre chose, le rugby, décidément Thierry, quand ça veut pas... Ça ne veut pas, il n'y aura pas de match France-Écosse dimanche.
Décision du comité des Six Nations après la découverte d'un nouveau cas de Covid au sein du 15 de France. Le match est effectivement reporté à une date ultérieure et c'est déjà l'occasion d'un premier casse-tête, Simon Rubin.
Exactement, hein, parce qu'un match reporté des semaines, voire des mois plus tard, c'est très mauvais pour le spectacle. Hein, ça prive le public d'une dernière journée exceptionnelle pour connaître le nom du vainqueur fin mars. Voilà pourquoi le comité des Six Nations a pendant un temps songé à faire jouer ce France-Écosse le 7 mars, la semaine prochaine. Décalé d'une semaine seulement, c'est pratique, mais les Écossais n'étaient pas favorables à cette décision parce qu'à cette date, leurs joueurs sont dans leur club et puis surtout... Rien ne garantit qu'à cette date-là, les Bleus seront sortis d'affaires. Alors, quelle date pour rejouer ce match ? Eh bien, peut-être celle du 3 juillet, date à laquelle les compétitions nationales et internationales seront terminées depuis une semaine. On n'est donc pas prêt de connaître le nom du vainqueur du tournoi. Alors, en attendant cette décision, les Bleus, eux, eh bien, vont devoir se soigner, en tout cas s'isoler. Après ce 16e cas positif, c'est toute l'équipe qui est cas contact, puisque le nouveau membre du 15 de France contaminé serait bien un joueur, selon nos informations. Le prochain rendez-vous pour le 15 de France, c'est donc désormais l'Angleterre à Twickenham, le 13 mars prochain.
Simon Rubin, du service des sports d'Europe 1.
Exactement.
Vous vouliez l'annoncer avant moi, Thierry.
Tout à fait, je voulais juste signaler que M. Castex, le Premier ministre, est en pleine conférence de presse, qu'il vient de signaler qu'il y avait 20 départements en vigilance orange en France actuellement, donc en surveillance renforcée. Pas de mesure annoncée à ce stade. On décryptera bien sûr tout cela tout à l'heure à 18h30 avec nos grandes voix. Merci Christophe Lamarre, on vous retrouve à 18h30 pour l'essentiel de l'info et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. Et voici la météo, Anissa Haddadi. Anissa,
oui,
demain, bah, dis donc, c'est pas la joie, hein. Retour des nuages, retour de la pluie également.
Bah ouais, pourtant, je vous avais parlé d'une autoroute du printemps jusqu'à la fin de semaine. Bon, il y a un petit virage. Un petit virage sur l'autoroute, effectivement. Bon, demain, vous le disiez, Thierry, hein, de la Gironde jusqu'à la région parisienne en passant par le centre Val-de-Loire. C'est vrai que c'est principalement là que le ciel sera plus couvert, gris, avec quelques averses dès le début de la journée. Sur toutes les autres régions, le soleil domine quand même hein, sur une grande partie de la France. Dans l'après-midi, sur la Bourgogne, le Grand Est et puis toujours la région parisienne, nous aurons toujours un ciel couvert avec des petites averses. Ce sont des toutes petites pluies hein, que nous avons. Dans l'après-midi, le soleil va bien se montrer aussi au bord de la Méditerranée où là, le matin, on avait des entrées maritimes. Elles vont très vite se dissiper pour laisser place à un beau soleil. Il n'y a que sur le Pays Basque, finalement, que nous avons des entrées maritimes un peu tenaces avec un ciel gris. Alors, les températures, ça, c'est l'autre mauvaise nouvelle. Elles baissent demain matin avec 1 à 5 degrés dans le Grand Est, 5 à 10 partout ailleurs. D'ailleurs, la maximale est prévue pour Paris avec 10 degrés. Puis dans l'après-midi, nous aurons 10 à 14 degrés sur la moitié nord et 14 à 20 degrés dans le sud. Par exemple, aujourd'hui, on avait 17 degrés à Paris. Demain, on aura seulement 12. Pouf. Et puis 15 degrés à Aurillac, 17 à Marseille, 19 à Gap et 20 pour Nîmes dans le sud. Dans le sud, rien à signaler, tout va bien.
Bon, allez, bonnes vacances à tous. Tout de même, merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour
tout à l'heure.
Un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et mon invité ce soir, Alain Dinin, le PDG de Nexity. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1. Votre groupe immobilier en chiffres, hein, 11 000 collaborateurs, 400 agences. Autant dire que vous avez une vue d'ensemble du marché. Et justement, vous publiez vos chiffres 2020. C'est très intéressant parce que malgré cette crise sanitaire et économique, votre groupe réalise un chiffre d'affaires en croissance de 8% par rapport à 2019, à plus de 4,8 milliards d'euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché immobilier finalement a tenu ?
Alors ça veut dire que d'abord le premier semestre a été effectivement très difficile. Donc en termes de résultats, oui, on est à moins 20, donc il ne faut quand même pas pavoiser. Mais en termes de dynamique commerciale, effectivement, dès le deuxième semestre, l'ensemble de la dynamique commerciale s'est remis en place.
Comment vous l'expliquez ?
Ah ben parce que d'abord, alors ce que nous sommes déjà chez Nexity, nous sommes producteurs de logements, producteurs de bureaux, administrateurs de biens. Résidence de personnes âgées, résidence étudiante. Alors, si on se concentre sur les sujets de production, sur le logement, par exemple, bien, la demande est extrêmement forte. Les gens ont besoin de se loger.
Ouais. Un chiffre, selon le Conseil supérieur du notariat, on a enregistré entre 970 000 et 980 000 transactions en 2020. Et c'est un niveau qui, finalement, est tout proche du record de 2019, qui avait dépassé le million. Vous confirmez ?
Oui, oui. Mais d'abord, je n'ai pas à confirmer les chiffres de la Chambre des notaires. Ils sont plus pointus que moi sur ces sujets-là. C'est bien entendu l'ensemble des transactions. Alors, quand on parle de près d'un million de logements, c'est du logement ancien et c'est du logement neuf.
Ça veut dire quoi ? Que pour les Français, la pierre reste, et d'autant plus dans cette période, une valeur refuge ?
Alors, je vais jouer un peu sur les mots, si vous me permettez. Ouais, en période de confinement, le seul endroit où je peux me réfugier, c'est chez moi. Donc les gens ont besoin de se loger. Ensuite, nous sommes un pays dont la croissance démographique est forte, contrairement à l'Allemagne. Nous serons 4 millions de personnes, 4 millions de familles de plus dans les 10 prochaines années.
Ouais.
Donc j'ai besoin de me loger, j'ai besoin d'habiter près des écoles, près de mon emploi, même avec la distanciation. J'ai besoin, lorsqu'on aura de la culture, de pouvoir y retourner, la santé aussi, bien entendu. Donc tout ça, ça crée une notion valeur refuge. Refuge autant en termes sociétal. Mais en termes économiques, c'est aussi une valeur refuge. C'est aussi un endroit où, lorsque j'investis quelque part, si j'ai bien choisi mon lieu, je retrouverai mon investissement.
On ne perdra pas, et on peut même gagner, d'ailleurs, c'est le cas à Paris. Hein. Alors, les prix à Paris ont pris énormément en 2020.
Alors, ils ont pris en 2020, surtout sur le premier semestre, je pense que ça va se ralentir sur la période, parce qu'il y a quand même une partie de la population qui, aujourd'hui, essaye de sortir un tout petit peu des villes denses.
Alain Dinin, ce qu'il y a de surprenant, c'est que, alors que beaucoup d'entreprises ont développé massivement le télétravail, en 2020, vous avez atteint un niveau historique de commandes pour de l'immobilier entreprise pour 1,5 milliard d'euros, contrairement à ce que l'on peut penser. Cette crise ne changera pas les habitudes des entreprises ?
Alors, ça change considérablement les habitudes des entreprises.
Ouais.
Il se trouve que notre prise de commande, ce sont des investisseurs et des occupants, par exemple le futur siège d'Engie à la Garenne-Colombes, eh bien ça c'est un des gros sujets de Nexity en 2020, mais il a été reconfiguré, il a été repensé pour une hypothèse de travail avec de la distanciation, mais aussi refabriquer des lieux de vie à l'intérieur de ces bureaux. Au fond, tous ces sujets-là tournent autour de la vie ensemble. D'ailleurs, je viens de l'afficher comme la raison d'être de Nexity.
Ouais.
La vie ensemble, c'est de comment je crée et comment je pense le futur de nos sociétés dans une hypothèse où, au fond, peut-être que ça ne sera plus le Covid, mais ça sera autre chose. Je pense que fondamentalement, les sujets ont changé et que les besoins de sociabilisation, d'avoir des logements adaptés, d'avoir des bureaux adaptés aussi, une façon de vivre, va modifier profondément l'ensemble des dispositifs.
Vous parlez justement du futur. Le futur, vous dites, on sera de plus en plus nombreux, donc il faudra se loger de plus en plus. La construction, néanmoins, est en crise. 380 000 permis de construire seulement fin 2020. Il y aura des conséquences à long terme ?
Il y a des conséquences. D'abord, il y a des conséquences immédiates et il y a des conséquences à long terme. D'ailleurs, on a quelque chose d'assez paradoxal. Je suis dans une ville dense, je suis l'élu d'une ville dense, je dis bah écoutez, on va arrêter de construire de la densité, mais je suis aussi un élu qui a une vision de la planète et de ces sujets-là, et je dis donc pas d'étalement géographique. Donc je peux pas construire dehors, je peux pas construire dedans. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah, il va se passer qu'il reste l'immobilier ancien, donc pour les propriétaires d'immobilier ancien, c'est une bonne nouvelle, mais ils vont rester sur leur rente avec peut-être des locataires, et encore on verra s'ils peuvent payer les loyers, et puis surtout, il y aura pas de logement neuf pour les gens qui ont besoin de se loger et qui arrivent sur le marché. Et donc, ces paradoxes-là créent effectivement, sur le plan général, et pour répondre très clairement à votre question, la clientèle la plus difficile à loger aujourd'hui, c'est de la clientèle qu'on appelle primo-accédant, c'est-à-dire des gens qui, à eux deux, sont à moins de 3000 euros de revenus mensuels. Eux, pour eux, il n'y a rien qui est fait, tout est difficile, les crédits sont difficiles à obtenir, le logement est cher, et il n'y a rien pour permettre de penser demain matin que le logement serait moins cher.
Vous le dites poliment, parce que vous êtes poli, Alain Dinin, vous avez l'oreille du président, vous en voulez à l'exécutif, parce que la construction a été oubliée par le plan de relance.
Alors, Jean, à cet instant et ces temps-ci, on ne peut pas en vouloir à l'exécutif de quoi que
mais
ce
alors
soit.
Vous dites quoi ?
Ils ont des choses à régler beaucoup plus importantes.
Bien sûr,
maintenant,
mais vous dites quoi au président ?
Ne pas penser que l'économie du bâtiment, c'est le deuxième acteur économique français. La capacité des gens, là où l'épargne va se poser sur l'immobilier et donc sur le logement et permettre à des gens d'y habiter, plus le sujet sociétal et social dont on vient de parler, l'ensemble de ces trois sujets-là, complètement oubliés par le gouvernement dans un plan de relance, c'est très surprenant, presque choquant, et il va falloir que ça change assez rapidement.
C'est dit. Vous n'êtes pas si poli. Il faut qu'on parle des prix. Le site d'estimation immobilière Meilleur Agent anticipe une baisse des prix de l'immobilier de 1% en France en 2021. Et parallèlement, je disais, ça grimpe toujours à Paris. On est à plus de 4%.
En fait, baisse des prix de 1%, ça n'a pas beaucoup de sens. Les prix ont doublé dans les 10 dernières années.
Ouais.
Le sujet, c'est qu'on ne construit pas assez. Et comme on ne construit pas assez, l'offre est faible. La demande est forte, parce que je l'évoquais tout à l'heure, la démographie et la croissance du pays est ainsi. Et donc, eh bien, l'offre et la demande déséquilibrées, pas beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, les prix montent, ou en tout cas ne baisseront pas. Et comme ils ne baisseront pas, les gens auront plus de mal à se loger. La Fondation Abbé Pierre, je ne vais pas m'appuyer sur des analyses qui ont été faites beaucoup plus pointues,
montre que
le mal-logement est de plus en plus net. Alors ce que l'on dit, c'est qu'il faut faire de la rénovation énergétique, qu'il faut transformer les logements, mais qui va payer ça ? Puisque vous citiez des interlocuteurs extérieurs à nous, la Cour des comptes vient de dire, attention, vous taxez tellement les propriétaires, vous leur mettez tellement de charges sur le dos, que vous arrivez aussi à une impasse. Donc, dans ces sujets d'impasse, des gens comme Nexity, nous, on a des solutions à proposer sur le co-living, on fait des cagnottes pour permettre aux jeunes d'acheter, on essaie de travailler les logements de façon différente, mais on n'est pas tout seul. Et si, effectivement, à un moment donné, les politiques ne se disent pas « on a un phénomène de société », et si le monde économique ne se dit pas « on a un phénomène économique majeur », on va être dans une impasse.
Et le message est passé pour une deuxième fois.
Mais il faut les passer souvent, les messages, vous le savez.
Mais j'entends ça.
Et en fait, en plus, on n'est pas très entendu.
Pour terminer, Alain Dinin, l'épargne des Français pourrait atteindre 200 milliards d'euros en 2021, un record. Est-ce que, selon vous, cela va donner envie aux Français d'acheter ?
Mais je le reviens toujours au même sujet, je suis désolé. Mais bien sûr qu'ils ont envie d'acheter. Ils ont besoin d'acheter pour un certain nombre d'entre eux. Ils ont envie d'acheter pour un certain nombre d'entre eux.
Ouais.
Le sujet, c'est que l'offre est faible. Et que donc, il faut augmenter l'offre. Et pour ça, il faut relancer le plan de construction. Il faut rénover, il faut transformer des bureaux en logements. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire pour rendre ce secteur économique porteur du futur de notre société.
Et le message est clairement passé ce soir. Le fondateur et PDG de Nexity, Alain Dinin, ce soir sur Europe 1. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h30, l'essentiel de l'information avec vous, Christophe Lamarre.
La situation sanitaire est préoccupante dans 20 départements placés sous surveillance renforcée. Le Premier ministre annonce que des concertations avec les élus des zones concernées vont commencer. Pas de restrictions supplémentaires pour l'instant. Jean Castex fera un nouveau point la semaine prochaine. Si la situation se dégradait encore d'ici là, le gouvernement prendrait des mesures renforcées pour le week-end du 6 mars. À partir de lundi prochain, les voyageurs, les touristes devront impérativement montrer un test PCR négatif de moins de 72 heures pour franchir la frontière entre l'Allemagne et la Moselle. Les travailleurs transfrontaliers, eux, seront soumis à des tests hebdomadaires. 7 mineurs présentés au juge d'instruction après la mort d'un collégien lors d'une bagarre à Boussy-Saint-Antoine. Et puis le pas de France-Écosse dimanche, le match de rugby du tournoi Destination est reporté en raison d'un nouveau cas de Covid détecté au sein du 15 de France. Enfin, le football avec les 16e de finale de retour de l'Europa League. Lille se déplace sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam à 18h55.
Le fil info avec Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. La météo, c'est important en ce moment, dites donc. Anissa Haddadi, les températures vont baisser.
J'espère que vous n'avez pas ranger vos pulls trop loin.
C'est ça, ouais. Il faut ressortir les doudounes, c'est ça.
Oui, bon, ça va baisser un petit peu demain, effectivement, surtout sur la moitié nord. On va perdre, par exemple, 5 degrés à Paris. Nous n'aurons que 10 degrés du côté de Brest, 12 seulement à Caen. C'est vrai que sur la moitié nord, ça reste un petit peu plus frais. Sur la moitié sud, les températures restent très douces, hein, avec 21 degrés à Gap, 18 pour Marseille, 19 degrés à Lyon. Là, ça reste très doux. Alors, rassurez-vous, ce temps perturbé annoncé pour demain, plus frais et plus nuageux, rassurez-vous, ça ne va durer que demain. Le printemps reviendra tout au long du week-end.
Ah.
Demain, de la Nouvelle-Aquitaine aux frontières belges, en passant par le centre-Val de Loire et la région parisienne, le temps est plus couvert avec des averses toute la journée sur ces régions. Ailleurs, le soleil va quand même briller assez généreusement. Profitez-en.
Merci Anissa. À tout à l'heure, 19h, pour un nouveau point complet.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, on ouvre le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés en studio Michel Cotta, Claire Chartier de l'Express et Franz-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point et Marseillais. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Conférence, on va dire, hebdomadaire de Jean Castex en ce moment même qui vient de se terminer. Non, pas tout à fait. Le mieux, c'est de l'écouter.
Ces départements sont au nombre de 20. Toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et enfin d'Eure-et-Loire. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'envisager des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.
Ce sonore dure 53 secondes, tout est dit. Claire Chartier, conférence de presse pour pas dire grand-chose finalement.
Oui, on s'attendait quand même peut-être à un peu plus d'annonces, donc là c'est pas le cas. Je pense qu'il reste tout à fait sur la même ligne d'ajustement, de politique un petit peu de l'entre-deux. Bon, à titre personnel, je pense que c'est cette formule et cette stratégie de vivre avec le Covid, elle mérite en fait un peu plus de débat, je trouve.
Ouais, d'explication.
Pas d'explication, mais plutôt de débat. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi, cette expression-là? Ça veut dire qu'on laisse le virus circuler à un niveau qu'on juge acceptable.
Ouais.
Mais en fait, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins indolore qu'on imagine quand même. Même si des gens sont protégés aujourd'hui par les vaccins, les personnes âgées, ça veut dire quoi, laisser le virus circuler? Ça veut dire que, en fait, plus il circule, ce virus, plus il peut muter. Et donc, en fait, plus il peut émousser la capacité des vaccins.
Ouais.
Donc, c'est quand même un vrai problème. Ouais. Ça, c'est un premier problème sanitaire. Et puis, un problème politique aussi et social. C'est qu'en fait, ça nous maintient dans un entre-deux qui n'est absolument pas vivable. Enfin, je pense que c'est vraiment tout le monde commence à le ressentir très fortement. On est quand même sous couvre-feu et c'est un quotidien qui est très pénible.
Une information quand même ce soir du Premier ministre. La vaccination des plus de 65 ans aura lieu. Elle est promise dès avril. Michel Cotta, votre sentiment, là encore, c'est en gros...
Non, moi c'est le contraire, absolument de celui-là.
Allez-y,
on n'est pas
moi,
du tout d'accord.
Exactement. Bon, fallait pas faire peur.
Non, c'est pour ça. Je pense que la stratégie baptisée zéro virus, zéro Covid, qui consisterait à mettre les gens sous cloche complètement pendant une période indéterminée, mettons un mois, moi je n'arrive pas à comprendre comment on pense que ça suffira à arrêter le virus. Ça n'a pas suffi.
On a confiné.
Ouais. Donc je trouve que entre le zéro. La stratégie du zéro Covid, qui est, à mon avis, non seulement inutile, mais en plus nuisible, je trouve que la proposition qui consiste à se dire « on surveille comme le lait sur le feu » est effectivement dangereuse, parce qu'on peut la reprocher, on pourra la reprocher plus tard, sûrement, au gouvernement. Mais il me semble que c'est la plus compatible avec ce que désirent les Français et ce que surtout supportent les Français, qui en supportent déjà beaucoup.
Franz-Olivier Gisbert, 20 départements, il faut les citer, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, département du Rhône, de la Drôme, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et enfin l'Eure-et-Loire. Circulaire, il y en a à voir, on reparle dans le 6 mars exactement et on verra ce qui se passe. C'était la bonne annonce.
Grosse densité de population. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel Cotta, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation, à mon avis, où chacun a trouvé ses marques. On voit très bien, il y a une sorte de jeu de rôle entre les uns et les autres. Bon, il y a Olivier Véran qui nous explique que c'est une catastrophe, la situation est dramatique. Enfin, je peux le citer. Lui, c'est Docteur Follamour, quoi. C'est vraiment Dark Vador. Il vous explique tout va très mal, attention, bientôt le confinement. Il y a Castex qui a une position un petit peu intermédiaire. Faites attention, faites attention, faites attention. D'ailleurs, les gens ne font pas attention en ce moment. On a vu
le week-end de Marseille, dernier, notamment.
Mais,
ouais.
Non, mais surtout là, à Paris, c'était absolument juste incroyable. Il faisait beau, tout le monde était dehors, sans masque, comme si voilà, tout était. On n'avait plus de Covid. Et puis, dernier point, Macron. Enfin, si vous voulez, n'est plus à la botte de ce qu'on peut appeler la République des médecins. Attention, j'adore les médecins, je
vois mais ça fait longtemps.
Mais ce côté, ça fait très peu de temps. Je suis désolé, ça fait.
C'est vrai qu'il a dit au Conseil scientifique.
Non, au moins trois semaines.
Oui, mais enfin, j'espère qu'il va tenir sur cette ligne. C'est ce que je veux dire. Évidemment, j'ai suivi l'actualité comme vous. C'est relativement récent, mais c'est quand même pas très ancien. Il a fallu attendre quand même un an, disons plusieurs mois avant qu'il prenne ses distances. Et je trouve que cette situation, elle est bonne, parce que l'idée qu'on va s'en sortir, alors là, Claire, je suis désolé, avec un nouveau confinement, moi je pense que, non, mais c'est il faut à tout prix éviter ça. Ouais. Sur le plan économique, c'est une évidence, je dirais aussi sur le plan psychologique, c'est-à-dire, les gens n'en peuvent plus, on va pas, si vous voulez, quand vous avez dans vos relations, je suis sûr que ça vous arrive, des psychiatres, ils vous disent très bien que ce qu'ils voient en ce moment, c'est juste atroce, c'est-à-dire des gens, je parle pas des gens qui sont en train de perdre leur boulot, je ne parle pas des restaurateurs, je ne parle pas de catégories de la population qui sont en panique. Non, enfin, vous voyez...
Claire
confinement n'est pas la solution, il faut essayer de l'éviter
plus précis, la stratégie zéro Covid, ce n'est pas que le confinement, en fait. Hein. C'est d'abord, effectivement, taper fort avec un confinement de 4 semaines, pendant lesquelles on se met en ordre de bataille, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens vraiment de tracer, d'isoler, de contrôler les gens qui sont à l'isolement. Enfin, il y a tout un ensemble de mesures qui font qu'une fois que vous sortez de là, vous avez donc nettoyé certaines zones et dès que ça repart dans un endroit, si j'ai bien compris, cette zone-là, elle est à nouveau vraiment verrouillée, chose qu'on n'a pas du tout fait. On n'a pas préparé avec les confinements précédents, notamment le premier, on n'a absolument pas préparé l'après-confinement. Donc là, cette stratégie-là, elle est plus large, elle s'élabore aussi au niveau européen, donc ça permet aussi, en fait, c'est une stratégie qui considère des zones et non pas simplement des pays. Et donc, moi, je trouve ça assez cohérent. Dans le détail, j'invite les auditeurs à les regarder. Et puis un autre avantage, c'est que là, aujourd'hui, on vit au jour le jour, constamment. En plus, avec la perspective quand même de se dire qu'on va être reconfiné. Alors que là, ça vous donne une perspective. C'est-à-dire que vous savez que vous allez être confiné un certain temps et qu'ensuite, des choses vont se mettre en place. Donc, je trouve que sur le plan psychologique, notamment, cette perspective qui nous fait tant défaut aujourd'hui et qui mine l'esprit des gens, vraiment le mental des gens, là, on pourrait la retrouver.
Michel Cotta, est-ce que ça peut coûter cher à Emmanuel Macron? Il y a un mois, il a décidé, alors que les médecins dont parlait France le demandaient, de ne pas confiner. Visiblement, enfin, ce n'est pas la bonne stratégie.
Certains médecins.
Ce n'est pas la bonne stratégie. On voit les chiffres.
Non, mais écoutez, d'abord que ça change, que la situation change de jour en jour, on le voit, mais c'est le virus qui change de jour en jour. Alors effectivement, oui, je crois que ça peut à la fois rapporter gros et coûter cher. À Emmanuel Macron, voilà, c'est un...
Coûter cher, ça veut dire que là, il joue son élection, il joue la présidentielle.
Oui, mais enfin, écoutez, franchement, moi, je vais vous dire, parler d'élection, là, maintenant...
C'est dans un an et deux mois.
Oui, mais d'accord, mais ça m'ennuie. J'ose pas, quoi. J'oserais pas parler aux gens. Parce que d'élection, parce que c'est vraiment... Non, mais je crois qu'on a un seul espoir. La course de vitesse, elle n'est pas dans le confinement, elle n'est pas dans un reconfinement, elle est dans le vaccin, point final.
Non, mais le paramètre au niveau, c'est celui-là. C'est-à-dire que ça, moi, je trouve qu'elle serait cohérente si on se disait qu'effectivement, le vaccin arrive. Le problème, il y a deux paramètres qui se sont invités dans l'affaire et qui n'étaient pas prévus, c'est que les doses, elles mettent autant de temps parce que les laboratoires ont effectivement beaucoup de problèmes à produire, chose à laquelle on ne s'attendait pas, et puis ces fameux variants. Donc ces deux paramètres, quand même, changent la donne.
François-Olivier Gisbert, le Conseil scientifique a publié aujourd'hui une note du 29 janvier. Elle prévoyait une augmentation rapide et importante du nombre de cas et des hospitalisations si les mesures actuellement mises en œuvre ne sont pas renforcées. Cette note et le Conseil scientifique proposaient un confinement national dès le début février.
Donc, je ne sais pas très bien où ils habitent, eux, mais de toute façon, les mesures qui sont déjà décidées ne sont pas toujours respectées. Enfin, il suffit de se promener dans la rue. Il y a plein de gens sans masque, il y a beaucoup d'attroupements. Je ne parle pas des petits cafés où on continue à vous servir à boire. Bon, il y a un certain nombre de règles de base qui ne sont pas respectées. Je pense qu'il faudrait d'abord respecter ces bases-là. Et ensuite, pour revenir à la situation actuelle, moi, je suis très heureux de voir que le gouvernement, justement, je veux dire, agit au jour le jour, parce que c'est comme ça qu'on va vaincre le virus. Ferme ici, bloque un peu là, ouvre là, parce que c'est comme ça que ça va marcher. L'idée de départ qui était d'une bêtise abyssale, c'est-à-dire c'était le comité scientifique, tous ces trucs, on vous annonçait ça dans... et alors on va faire ça dans toute la France, y compris d'ailleurs en Guyane, parce que ça restera historique quand même, c'est-à-dire qu'on déconfinait en Guyane, hein, parce qu'on déconfinait toute la France, donc la Guyane c'est la France, on déconfinait en Guyane au moment même où le virus arrivait en Guyane. Non mais il faut vraiment être taré comme un énarque ou comme un dirigeant politique français pour faire ça. Donc mais aujourd'hui, c'est justement une stratégie radicalement différente où on va regarder un peu ce qui se passe à Nice, regarder ce qui se passe à Dunkerque,
peut-être lâcher. Les pays où ça a vraiment marché,
c'est la Chine rapidement et
pas que les pays asiatiques, aussi au Danemark, ils ont appliqué cette même stratégie que j'évoquais avant. Donc c'est là où ça a été beaucoup plus éradiqué, où l'économie se porte aujourd'hui beaucoup mieux. Donc,
c'est plus petit hein, quand même.
Bien entendu.
C'est plus petit que la France. Dans les petits pays comme Israël, et tout ça, c'est quand même plus facile que les grands.
Allez, Michel Cotta, Claire Chartier et Franz-Olivier Gisbert ce soir pour le débat des grandes voix. Vous restez avec nous. On revient dans deux minutes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
18h45 sur Europe 1, on poursuit notre débat des grandes voix avec ce soir Michel Cotta, Claire Chartier et Franz-Olivier Gisbert. On parlait bien sûr des annonces de Jean Castex en ce moment même. Dernière annonce, il a promis la vaccination pour tous les plus de 50 ans d'ici la mi-mai. Je voudrais juste revenir sur un point. Et ce soir, il dit finalement, c'est aux élus de prendre la décision, de parler entre eux et de décider. On retrouve le Jean Castex finalement du discours de politique générale à la mi-juillet.
Enfin. Ça a mis du temps.
La force au territoire.
C'est évidemment ce qu'il fallait faire depuis le début. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre des mesures comme ça sans discuter, parler avec les élus. D'ailleurs, on le voit très bien. Bon, il y a des élus irresponsables. Il y en a eu quelques-uns, on les a entendus. Mais il y a aussi des élus extrêmement responsables. Je pense à Christian Estrosi, le maire de Nice. Je pense au maire de Dunkerque. Enfin, quand on les entend, ce sont des gens sérieux.
Qui réclament le reconfinement, le week-end.
Qui réclament des mesures, etc. Ouais. Donc, c'est important qu'ils soient là-dedans. Enfin, l'idée que de court-circuiter tout ça et de faire des mesures qui tombent d'en haut, d'on ne sait où, prises par des comités théodules, enfin, c'est une absurdité totale. On est sorti de là, Dieu merci. C'est pour ça que je trouve que ça va mieux.
Michel Cotta.
Enfin, ça va mieux. Les vaccinations, c'est la catastrophe
le seul
française.
Problème, hein. On voit bien que le seul problème est qu'il y a des régions où les élus n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ça n'a pas été le cas des Alpes-Maritimes, mais enfin, ça aurait pu l'être. Donc, quand les élus ne sont effectivement pas d'accord que les petites villes en arrière du pays disent « Ah ben non, nous, on ne veut pas, on a déjà eu des catastrophes, on ne veut pas recommencer », c'est plus compliqué, voilà.
Non, est-ce qu'on peut se réjouir aussi finalement que l'instrumentalisation politique est pas mal diminuée aussi, parce qu'on a vu quand même beaucoup d'élus jouer cette carte-là, beaucoup étaient dans l'opposition et utiliser en fait cette problématique-là pour encore ça, affronter le... Bon là, on n'est plus dans ça, dans ce jeu-là, et ça, on peut s'en réjouir, oui, en effet.
On avance un peu. Je voudrais qu'on parle de ce fameux passeport vaccinal, le Conseil européen qui a lieu en ce moment même, d'ailleurs un plan sur la question. L'Europe semble désunie sur le sujet, la Grèce, le Danemark, l'Italie, l'Espagne sont prêts à lancer la procédure dès que possible, avant les vacances d'été. De l'autre, eh bien, on a nous, la France, l'Allemagne, la Belgique, qui considèrent le sujet comme prématuré. Est-ce que, selon vous, les grandes voix, ce passeport vaccinal, est-ce qu'on peut vraiment y échapper, Franz-Olivier Gisbert?
Je pense qu'il faudrait peut-être d'abord savoir où on en est sur le plan vaccinal. C'est pas être anti-France de dire que c'est la situation de la France, sur ce plan, est absolument catastrophique. Quand on voit les chiffres des autres, alors je parle pas des Émirats Arabes Unis qui sont à 60%, je parle pas non plus de l'Israël qui est très très haut, enfin bon, y compris des États-Unis d'ailleurs, où il y a un effort considérable, je parle pas de la Grande-Bretagne qui se rattrape de toutes les conneries faites par Boris Johnson, parce que ça vaccine, vaccine, ça vaccine, et c'est ce qu'on devrait faire, nous. Alors, on ne sait pas ce qui se passe, et la bureaucratie, les comités Théodule, les réunions de l'ARS interminables, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, on réussit à faire moins bien que la plupart, presque tous les pays européens. Moins bien que la Pologne, moins bien que la Hongrie, moins bien que la Roumanie, moins bien que l'Espagne, moins bien... Enfin, c'est juste hallucinant. C'est la question. Oui, mais enfin, il y a toujours une raison. En tout cas, on a les mêmes doses, on devrait pouvoir vacciner. Il y a un truc qui ne va pas.
Allez, la parole circule. Claire Chartier.
Non, sur le passeport, en effet, pour l'instant, c'est complètement prématuré parce que ça n'a de sens que si tout le monde peut être vacciné. Parce que la question,
mais
c'est
justement,
quoi
est-ce qu'on va être obligé de s'y mettre parce que l'Europe aura décidé de s'y mettre?
Mais déjà, le problème, il y a un problème si, effectivement, tout le monde n'a pas égal accès à la vaccination et donc au passeport. Donc ensuite, il va se poser un autre problème. C'est que certains vont dire, moi, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner, il n'y a pas de raison que je sois privée de tel ou tel service parce que j'ai fait ce choix. Et c'est là où, à mon sens, c'est une vision totalement restrictive de ce que sont les démocraties libérales. Je veux dire, on a l'idée que les libertés individuelles doivent s'exprimer pleines et entières et qu'elles ne sont jamais conditionnées par l'intérêt collectif. Bah si, dans les sociétés libérales, bien sûr que si, il y a quelque chose qui s'appelle l'intérêt collectif, la poursuite du bien commun. Et donc, il n'y a aucune raison pour que l'intérêt de quelques-uns prime sur l'intérêt collectif. Donc, à ce moment-là, mais on n'en est pas à ce débat-là, mais en tout cas, je pense qu'il faudra le dire d'une façon très, très nette. Effectivement, aujourd'hui, l'horizon, cet horizon-là, l'horizon collectif, ce n'est plus un horizon partagé. Et c'est là le problème.
Michel Cotta, je voudrais vous entendre là-dessus.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais simplement, il s'imposera. De toute façon, les compagnies aériennes diront vous prenez l'avion, vous partez en Asie si ça. Vous êtes vacciné. Et puis, les gens diront si vous n'êtes pas vacciné, trois semaines de, quand vous arrivez sur notre à Pékin, trois semaines
de quarantaine.
De quarantaine. Bon, voilà, ça marche. Le moment, on peut à peine en parler, c'est tout, parce qu'on est trop peu vaccinés.
Mais ça pose des questions d'éthique, ça pose des questions juridiques.
Oh, éthique,
ça, quand même,
éthique
hein.
Pour qui,
parce que
hein,
c'est question
éthique,
éthique. Pourquoi, regardez, non, bah non, mais regardez, non. Moi, je reviens toujours là-dessus, mais regardez les pays où ça marche, Taïwan, regardez la Corée du Sud, les restaurants sont ouverts, les gens circulent, on ne parle pas de confinement, etc. Mais c'est vraiment, il y a des règles qui sont respectées.
Mais ça pose des questions d'égalité des droits, tout de même.
Mais non, mais c'est pas un problème de droit.
Les jeunes qui seront vaccinés tardivement, finalement, seront les derniers.
Attendez, il faut mieux être confiné, il faut mieux être mort. Non, mais c'est des questions comme ça, c'est très con comme question, et c'est la réalité.
Si on n'est pas en place, à ce moment-là, on fermera, on laissera fermer tout, les musées, tout le reste, parce que quelques-uns ne se seront pas vaccinés.
Il faut effectivement prendre des décisions.
De toute façon, quand on se fait vacciner, quand on vaccine les enfants à deux mois, on ne leur demande pas leur permission.
Bah oui.
Donc il y a des vaccins obligatoires, obligatoires.
Et Thierry Breton, le commissaire européen à l'industrie, promet 2 à 3 milliards de doses produites par an dans l'Union européenne d'ici 2021.
Oui, c'est ça.
L'accès à la vaccination sera donc massif dès l'année prochaine. Claire Chartier.
Alors, une bonne nouvelle.
Oui. Non, je pense qu'effectivement, on peine à croire que nous allons être très majoritairement vaccinés d'ici la fin de l'été, comme s'y est engagé Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'était assez risqué quand même. Hein. Pour revenir juste un instant sur Jean Castex, une pensée pour lui quand même, parce que le pauvre, il n'existe pas. Hein. Il n'existe que au travers des bulletins hebdomadaires qu'il nous transmet sur l'état de la nation sous Covid.
Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre?
Je ne sais pas, j'imagine que... En tout cas, Édouard Philippe, il faisait autre chose. Il avait une autre stature, une autre consistance. Là, il est quand même très réduit dans ça.
Il y a un très bon portrait dans Le Point de cette semaine, justement, sur les coulisses.
Très bon journal, d'ailleurs.
Très bon journal de Jean Castex. Finalement, qui existe, incarne la fonction de Premier ministre, Michel Cotta.
Donc il est exactement dans le cadre de la fonction du Premier ministre de la Ve République.
On peut le, il fait le sale boulot, il est pompier.
Non, il met l'intendance, il essaye de mettre l'intendance derrière les vœux du président. Certains alors, ça n'était pas le cas d'Édouard Philippe, mais à mon avis...
Même Fillon, avec Sarkozy, il avait beaucoup plus de tessiture aussi. Enfin, je trouve que ce n'est pas du tout, forcément.
Chacun réagit comme... C'était un match compliqué en coulisses aussi.
Chacun réagit comme il peut, c'est son personnage.
C'est quelqu'un qui joue pas sa carte personnelle, c'est très rare, parce qu'on peut citer d'autres premiers. Effectivement, Édouard Philippe, il avait un parcours à part. Voilà, il continue à jouer sa petite carte. Et il continue à avoir un parcours à part. Vous citiez François Fillon, c'est pareil. Après, on peut continuer à remonter. Rocard, etc. Et là, zéro, c'est-à-dire il se met vraiment...
C'est peut-être pour ça qu'il a été choisi, d'ailleurs.
Mais oui, alors, mais le souci, oui. Attendez, le souci, c'est que ça marche. On a une crise. Moi, je trouve qu'il a son utilité là, et notamment, il l'a eu, en tout cas, en remettant les élus sur le devant de la scène.
Ça, et ça veut dire quoi, qu'il est dans une posture sacrificielle ?
Oui, absolument, oui. Tout à fait, ça vous l'avez dit, c'est le mot.
Il, moi, sera, ça me dérange,
il a fait don de sa personne.
Voilà, il a fait don.
Et il est
de
là pour faire le fusible.
À la France, comme disait l'autre. Oui.
Mais voilà. C'est vrai que ça accentue encore ce travers qu'on a quand même de présidentialisation. Là, on a un virus de la présidentialisation parce qu'on a un Premier ministre qui existe, donc vraiment pas beaucoup. Ouais. Un Parlement qui, dont l'activité, ouais, évidemment, par les circonstances, est quand même limitée. Et donc, un président qui, alors lui, il va au feu. Il paraît, on nous dit même qu'il lit toutes les études scientifiques à tel point qu'il est presque aussi capé que les scientifiques qui font partie du Conseil du
Ministre. Non, on l'a élu, donc, c'est lui aussi décidé.
Ah ouais. Non, mais là, il est vraiment tout seul face à l'adversité.
Michel Cotta, sur la répartition des rôles en ce moment entre le président et son Premier ministre.
Mais oui, non, je viens de dire que je trouve que c'est normal
c'est
pour un Premier ministre.
C'est exactement ce qui est prévu dans la cinquième, finalement.
Enfin, c'est normal pour un Premier ministre qui ne veut pas avoir une carrière après. C'est-à-dire qu'il ne joue pas, comme Pompidou disait, vous rappelez que Pompidou disait qu'il avait pensé qu'il serait un jour président de la République en montant la marche de Matignon. Bon, bah lui, c'est l'anti-Pompidou de ce point de vue-là.
C'est l'anti-Pompidou, François-Yves Gisbert.
Ah oui, tout à fait. Je trouve que c'est quelqu'un qui... c'est intéressant parce que c'est peut-être le premier cas à ce point. Il y avait eu déjà Mesmer. Hein, sous Pompidou, ouais, d'ailleurs, c'était...
Mais il était un soldat. Hein,
c'était plus un soldat, voilà. C'était quelqu'un qui... Il avait sa personnalité, d'ailleurs. Il parlait du président de la République à l'époque, ouais, avec une grande liberté de parole, hein, parce que quelqu'un qui était très intelligent. Mais il ne jouait pas sa carte. Rien à foutre. D'ailleurs, il ne s'est pas présenté à la présidentielle quand Pompidou est mort, à la surprise générale, parce qu'il aurait pu en 1974. Et effectivement, c'est peut-être le premier cas du Premier ministre qui se sacrifie. Qui se sacrifie. Après tout, c'est un poste, on dit souvent, il faut le supprimer. Et ben, quand on voit le comportement de Jean Castex, il y a peut-être des présidents de la République à venir qui vont se dire, mais oui, mais avec Jean Castex, c'est agréable.
On évoquait les élus, on aurait peut-être plus le voir sur ce front-là, dans le dialogue avec les élus, puisque c'était une carte qu'il avait jouée.
Ça, c'est de la com. Excusez-moi, il le fait.
Oui, bon, d'accord, mais c'est de la com. C'est aussi important dans précisément la façon dont il est perçu auprès de l'opinion publique.
Oui, mais
c'est de la com. Ça fait partie aussi de
l'exercice. Dans la réalité, on sait qu'il les appelle, qu'il est. C'est un Premier ministre qui fait
Michel,
pas de com.
Michel Cotta.
Premier ministre sans com.
Bah oui, c'est bien.
Sondage, regardez.
Ça change.
Regardez, je lis ce sondage. 60% des Français pensent qu'il y aura un troisième confinement national dans les prochaines semaines, une hausse de 12 points par rapport à la semaine dernière. 59% des Français jugent par ailleurs qu'Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur. Claire.
Non, ça fait partie de la défiance.
Cela vous laisse.
C'est un autre débat. Hein. On pourrait beaucoup parler et faire même une autre émission sur la défiance vis-à-vis des politiques.
Hein. Nous sommes effectivement sur la gestion de cette crise par l'exécutif en ce moment même.
Oui, mais
excusez-moi, la gestion n'a pas été bonne depuis le début. Elle était très exécrable sur les masques. Ce qui paraît que ce n'était pas nécessaire.
Sondage Doxa.
Hein. Très en retard sur le dépistage. Mmh. Enfin bon, il n'y a pas eu l'idée tout de suite de regarder qu'est-ce qui se passe dans les pays où on est confronté à des épisodes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et on sait très bien, c'est confinement individuel, dépistage,
c'est
etc.
Masque,
ce qu'on a mis du temps à faire.
C'est compliqué la stratégie zéro Covid.
On n'est pas tous en même temps.
La Chine, l'exemple coréen aussi. C'est-à-dire, bon... Ça, on ne l'a pas fait. Et là, aujourd'hui, sur la vaccination, on est en retard. On est derrière les autres.
Ça,
c'est
vous l'avez
normal.
Dit, France. On a compris.
Oui,
vous le répétez en boucle depuis une demi-heure.
Dans les médias,
en attendant, c'est très bon, les exemples chinois.
Parce que la France est un pays qui peut être devant.
Allez, le mot de la fin avec vous, Claire Chartier.
Non, juste pour terminer, je ne suis pas sûre. Au contraire, moi, je pense que la stratégie d'ajustement, en revanche, on pourra moins lui reprocher à Emmanuel Macron qu'une stratégie plus radicale. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a choisi.
Michel Cotta, Claire Chartier et François-Olivier Gisbert ce soir pour le débat des grandes voix. Merci, merci à vous trois, merci beaucoup.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Et on se retrouve dans quelques secondes sur Europe 1 avec le journal de 19h. On va bien sûr revenir sur la conférence de presse de Jean Castex. A tout de suite.